Dieu créa l'homme et la femme. Il les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. » La sexualité est donc naturelle et bonne puisque durant des millions d'années, il n'y avait pas d'enfantement sans relation sexuelle. Tout ça commençait très bien. Malheureusement, ce serait trop simple et si le récit s'arrêtait là. Après la désobéissance qui les pousse à manger le fruit défendu, Dieu bénit le premier couple de la création, Dieu punit le premier couple de la création en les chassant du jardin d'Éden. Ils perdirent tous les deux l'accès à une vie tranquille et à l'immortalité, et ils eurent à subir respectivement une punition particulière pour chacun d'entre eux. Pour Adam, ce sera de travailler péniblement pour gagner sa nourriture à la sueur de son front, et pour Ève, ce sera de devoir enfanter dans la douleur. Il est vrai que si nos deux tourtereaux n'avaient pas désobéi, je ne sais pas si l'histoire aurait été très passionnante. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un récit où tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est reposant, mais ça limite l'imagination. Si, au commencement, la sexualité est voulue par Dieu pour faire prospérer l'humanité, alors pourquoi en faire tout un monde ? Pourquoi parler de débauche, de stupre, de vice, de lubricité, de luxure, de dépravation et de concupiscence ? Pourquoi Dieu a-t-il fait en sorte que les villes de Sodome et de Gomorre soient rayées de la carte ? Pourquoi le sexe est-il si souvent associé au vice et au péché ? La relation entre Dieu et la sexualité est vieille comme la mode. C'est une question abordée différemment selon les cultures, les religions et les époques. Après la Genèse, allons voir ce qui se passait chez les Grecs. Ils parlaient de philiae, d'agapé et d'éros. Arrêtons-nous à ce dernier, Eros. C'est le dieu de l'amour et du désir. Il est le fils d'Aphrodite, déesse de l'amour, et d'Arès, dieu de la guerre. Dans des récits plus anciens, Eros est une force primordiale, née au début du monde, représentant l'énergie qui unit les êtres. On le représente comme un jeune garçon ailé, muni d'un arc et de flèches. Il est l'équivalent de Cupidon chez les Romains, eux-mêmes réputés amateurs d'orgies, si l'on écoute les mauvaises langues. Notre Eros, bien que puissant, est lui-même assez faible devant la chair et ne résista pas à la beauté de Psyché dont il tomba amoureux malgré la réprobation de sa mère. Le mot grec Psyché signifie à la fois âme, souffle vital et parfois esprit. C'est d'ailleurs de là que vient le mot moderne psychologie. Nous comprenons pourquoi le mot Eros a autant influencé la psychanalyse où il peut désigner les pulsions de vie, ce qui pousse à créer, aimer, relier, et nous savons pourquoi Sigmund Freud n'était pas forcément qu'un obsédé sexuel. Remarquons que le sexe est associé à la puissance créatrice, d'où ce rapport particulier avec le divin. D'ailleurs, ne dit-on pas d'un homme qui a des troubles érectiles qu'il est frappé d'impuissance ? Dans beaucoup de traditions religieuses, la sexualité est vue comme quelque chose de puissant, qui peut être à la fois sacré et dangereux. Dans certaines formes d'hindouisme, de tantrisme ou de taoïsme, la sexualité est considérée comme une énergie vitale liée au divin, une force qui peut même être utilisée dans une optique spirituelle ou méditative. Sous nos latitudes où le christianisme domine, la sexualité est associée à l'amour et c'est là que le sujet devient délicat, subtil, mais encore plus passionnant, même si la passion et l'amour sont bien différents. Pour un chrétien, le sexe débridé a mauvaise réputation. C'est bien gênant et surtout en contradiction avec l'instinct de reproduction. D'un côté, Dieu nous dit « Soyez féconds, multipliez-vous, allons-y Folleville !» et de l'autre côté, l'Église nous demande de nous calmer. Il n'en demeure pas moins que les péchés d'ordre sexuel occupent une grande part des confessions. Diable ! Mais pourquoi Dieu a-t-il créé les MST ? Peut-être pour nous punir d'avoir commis le troisième des sept péchés capitaux, la luxure ? Ce qui me perturbe et me fascine, c'est que le sexe est entre l'amour et le vice, entre la volupté et l'impureté, entre le cérébral et l'animalité. Ce soir, nous allons parler de désir, de sensualité, de volupté et des joies de la chair. Bref, nous allons parler sexe d'un point de vue catholique. Pour cela, j'ai invité M. l'abbé Jean-Eudes Gilbert, curé de la paroisse de Cormeilles en Parisie et de La Frette. Bonsoir, Monsieur l'abbé.
Bonsoir.
Alors, est-ce que sucer, c'est péché ?
Merci pour votre invitation d'abord. Je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les.
Ça commence bien.
Eh oui.
Non mais tant mieux.
Que les confessionnaux sont remplis de péchés sexuels. Ce n'est pas si rempli que ça, ce n'est pas la première chose qui vient, Dieu merci. Les gens ne sont pas obnubilés par ça.
Ah
Et
ben.
c'est plutôt à la fois heureux et en même temps interrogeant, parce que de fait, comme vous le dites si bien, la sexualité est marquée par le péché, comme tout ce qui vient. Comme tout ce que nous expérimentons ici-bas,
Mais vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce que le taux de natalité
ce
est en
qui est une
baisse.
bonne nouvelle, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que d'abord et avant tout, le don de Dieu est premier. Et c'est ça qui est essentiel, je crois vraiment, à avoir en tête quand on parle sexualité, c'est le don de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien dit au début de votre chronique, en revanche, c'est qu'effectivement, la sexualité qui est donnée à Dieu, enfin qui est donnée par Dieu aux hommes, est le premier outil que Dieu leur donne pour remplir cette mission vaste qui est d'être à la fois fécond et en même temps, enfin, et de se multiplier. Et j'insiste beaucoup, en particulier en préparation au mariage, sur la différence entre les deux. Ce que Dieu demande d'abord, c'est d'être fécond, et ensuite il demande de se multiplier. Et ce qui veut dire que les deux ne se recouvrent pas parfaitement, que la fécondité est plus large que la simple multiplication, la simple procréation, et que de fait, dès lors, la sexualité, elle est aussi à entendre dans ce champ beaucoup plus vaste de la fécondité et de la façon dont l'homme, dans la relation amoureuse, dans son désir d'aimer et d'être aimé, est capable de se donner, d'accueillir l'autre et de faire vivre et de faire exister un bien nouveau.
Alors, j'avoue que j'ai pas saisi la subtile différence entre fécondité et reproduction.
Eh bien,
La fécondité n'est
si nous
pas la.
sommes... Si la fécondité est la reproduction, alors ma vie est inféconde et infidèle à la volonté de Dieu et à la mission que Dieu nous a confiée et m'a confiée, qui s'inscrit dans l'acte créateur originel, et qu'il m'a demandé de réaliser dans ce choix particulier de la vie consacrée.
Ah, mais là, vous ouvrez sur une généralité sur la fécondité. Ça peut être la fécondité intellectuelle, artistique,
Mais c'est
spirituelle.
extrêmement
Voilà.
important.
Oui, mais il faut mieux le préciser parce que là, on parle de sexualité.
Je
Bon, bah, la
suis.
fécondité dans la sexualité, c'est forcément avoir des
Oui,
petits-enfants.
mais justement pas.
Ah bon?
Parce que ça veut dire, si vous dites la sexualité dans la fécondité, c'est forcément avoir des enfants, ça veut dire que Baudouin et Fabiola de Belgique ont eu une sexualité purement. Purement
Hédoniste.
hédoniste, érotique et stérile, alors qu'ils ont vécu une fécondité dans leur vie de couple en tant que roi et reine des Belges, dont la sexualité qu'ils ont vécue fait partie.
Je comprends mieux.
Voilà.
Ce qui veut dire qu'on peut être marié à l'église et ne pas avoir d'enfant, mais pour autant être un couple. Sanctifié.
Sanctifié et sanctifiant, je dirais même aussi. Mais de fait, c'est-à-dire que ça a été c'est une des grandes révolutions de la conception chrétienne du mariage et donc de l'amour humain. Vous avez, lorsque le christianisme naît dans la société antique, dans la société romaine, le couple n'a pas de valeur en dehors des enfants qu'il a. Et ça se comprend extrêmement bien. Si on fait l'histoire du mariage, le mariage, c'est quoi au départ? C'est une alliance entre deux clans où on a pioché un volontaire dans chaque clan. On les a mis ensemble, on les a mariés ensemble, avec pour mission d'avoir des enfants pour rendre pérenne l'alliance entre les deux clans. Si le couple n'avait pas d'enfants, soit on dégageait un des deux, en général la femme, et puis on trouvait un autre. une autre donzelle disponible et on recommençait, soit c'était la fin de l'alliance et les deux clans se séparaient. Le royaume de France a été construit quasiment sur ce modèle-là.
Je fais une parenthèse, juste pour ceux qui accusent toujours l'Église d'avoir infériorisé la femme. Je trouve que c'est le contraire, puisque c'est l'Église, je crois que c'est même le conseil de Latran vers le 8e siècle, qui a demandé aux deux fiancés que le oui soit un oui, que votre oui soit un oui, et qui a donné, par conséquent, la capacité juridique entière à la femme.
Absolument. Voilà.
Non, mais ça, on l'oublie, et je trouve ça important de le dire.
Et c'est bien de le rappeler, voilà. Et c'est en pleine logique avec la conception, avec ce que la révélation va permettre à l'Église de dire du mariage et de l'amour humain, c'est-à-dire que le mariage et l'amour humain s'épanouit dans le fait de décider librement de s'aimer mutuellement. Et que cette décision d'amour mutuel, ce projet d'amour mutuel, et c'est important de parler de projet, il fonde en soi la valeur du couple, qu'il ait des enfants ou non. C'est toute la crise de avec Henri VIII au XVIe siècle et le martyr de Thomas More. Lorsque Thomas More dit « Vous me condamnez à mort pour des raisons politiques, etc. » Mais pas du tout. C'est pourquoi vous me condamnez à mort. C'est parce que je défends la validité du mariage entre le roi et Isabelle d'Aragon, même s'il est infécond. D'accord. Absolument.
Donc le but du mariage n'est pas seulement la procréation. Il est une des conséquences, mais pas le seul but en soi.
Il est la conséquence naturelle du mariage. C'est normal qu'un couple ait des enfants. Mais de fait, il n'est pas sa finalité. La finalité, c'est la sanctification des époux. Et, et de ce point de vue-là, vous auriez pu citer le deuxième chapitre de la Genèse.
Ah bah ça, je vous le laisse. Hein. Chacun son travail. Et ce n'est pas moi qui va tout faire. Allez-y, monsieur.
Dieu dit, donc il crée l'être humain, dans le deuxième chapitre de la Genèse, il crée l'être humain, l'Adam, la dame, le glaiseux, le terreux, c'est-à-dire l'être humain indifférencié en fait. Et ensuite, face à cette création, Dieu se dit, je vais lui faire un secours, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire un secours ou une aide. Qui lui ressemblera. Et il crée les animaux, etc., etc., etc. Et ça n'est qu'à la fin que, pour trouver vraiment une aide qui convienne ou un secours qui convienne à ce glaiseux, il prend le glaiseux ou le terreux, il le coupe en deux. Voilà, il le coupe en deux, hein, comme un morceau de beefsteak qu'on coupe en deux au milieu. Et c'est là qu'on a le fameux... voici l'homme, voici pas du tout. Voici l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. On l'appellera femme. Et c'est-à-dire que l'amour humain, il est la relation en fait, et l'amour humain, il est au service du bien de l'autre. Il est au service de mon propre bien à travers le bien de l'autre. Et dès lors, il y a bien quelque chose qui est dans le mariage, qui est autre chose que la procréation, même si ça a sa place, qui est la sanctification mutuelle des époux.
Oui, alors, je vais faire l'avocat du diable. C'est que dans la Genèse, il est dit quelque part que Adam commençait à s'ennuyer un peu, tout seul, et que Dieu lui a donné une femme, enfin, lui a permis d'avoir un être à sa ressemblance, mais femme, pour qu'il s'emmerde pas trop. Et d'ailleurs, de ce fait, ils ont dû copuler, mais comme c'était les premiers, on va dire qu'on les sanctifie, parce que sinon, nous ne serions pas là. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça? C'est-à-dire que le but, le premier but, c'était que Adam se retrouvait comme un pauvre air, tout seul, sans pouvoir jouer aux cartes ou faire un scrabble le soir devant son feu de cheminée.
Alors, je ne suis pas sûr que c'est une interprétation un peu,
oui,
un peu légère fantaisiste de Genèse 2.
non, mais c'est, vous voyez bien où je veux en venir. C'est-à-dire que si vous me dites que le couple en lui-même est comment vous avez dit, sanctifié.
Est ordonné à la sanctification des époux.
Ce qui veut dire qu'ils peuvent avoir une sexualité propre qui n'est pas forcément axée sur la fécondation. Ah, c'est là où ça devient très subtil.
Là, c'est plus clair.
Oui, voilà.
Là, c'est plus clair. La sexualité, moi, j'aime bien pour faire comprendre ce que je dis, que ce soit aux jeunes ou aux couples, etc. J'aime bien prendre la comparaison du repas. C'est-à-dire que le repas, il est ordonné à me donner l'énergie dont j'ai besoin pour affronter une émission de radio, pour aller célébrer la messe, pour je sais pas quoi.
Pour vivre, tout simplement.
Pour vivre, tout simplement. Il est ordonné à ça. C'est-à-dire qu'il doit remplir cette fonction-là. Pour autant, le plaisir a toute sa place.
Ah,
le plaisir
c'est
a toute
une
sa
bonne
place.
Nouvelle.
Et c'est bien plus agréable de manger une côte de bœuf bien saignante, etc., avec des pommes de terre bien sautées comme il faut, n'est-ce pas ?
Voilà. Quand ça grille un peu.
Que de bouffer une espèce de sandwich au mauvais jambon. Voilà. Donc, on
ne
voit
citerons
bien,
pas de marque.
Voilà. Et pourtant, les deux vont remplir la fonction de donner la nourriture et l'énergie dont j'ai besoin. Les deux répondent à ce à quoi la nourriture est ordonnée. Pour autant, le plaisir a sa place. Il en est de même dans la sexualité. La sexualité, elle est ordonnée à la transmission physique de la vie. Elle est donc ordonnée à la procréation. Pour autant, le plaisir a sa place. Non seulement le plaisir a sa place, mais en plus, il est nécessaire pour la pérennité de la relation. Un couple qui n'aurait plus de plaisir dans sa relation sexuelle, en fait, il va arrêter d'avoir des relations sexuelles et progressivement, ça fait partie des éléments qui vont détériorer la relation du couple.
Bah, vous savez, après 10 ans de mariage...
Bah oui, justement, c'est bien, au bout de 10 ans de mariage, de ne pas se dire, j'ai fait le tour de la question, c'est bon, je vais aller voir ailleurs.
D'ailleurs, entre parenthèses, je pense que l'Église, là-dessus, est encore du côté des femmes, parce que je pense que le lien du mariage est fait pour les protéger, elles. Étant donné que les hommes sont plutôt inconstants et qu'ils peuvent aller copuler à droite à gauche, il n'y a pas de conséquences directes sur leur corps. Alors que les femmes, elles veulent protéger leur foyer puisqu'elles enfantent et donc elles ont des conséquences 9 mois plus tard. Et je pense qu'il était immoral de dire à un homme qui avait une femme vieillissante qui ne pouvait plus faire d'enfants, bon bah je la laisse tomber pour en prendre une plus jeune. Et je pense que l'Église elle a dit oh là oh là, attends, tu t'es marié avec elle, tu t'en occupes jusqu'au bout.
Alors. Je suis pas un connaisseur assez fin de l'histoire du mariage dans toutes les civilisations, mais il me semble que nous sommes un peu tributaires d'une interprétation marxiste de l'histoire et où on a considéré, où on a tendance à considérer qu'il y a que nous qui soyons intelligents. Le souci de la protection de la femme est un souci permanent dans les civilisations parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est elle qui porte l'enfant. Elle est nécessaire à la transmission de la vie, alors que, en revanche, l'homme peut servir de chair à canon. Ça n'a aucune importance du moment que la femme est là. Et donc, même le système de répudiation dont on entend parler dans les évangiles ou dans les civilisations moyen-orientales, même ce système-là a pour objectif que la femme ne soit pas sans protection. Pourquoi est-ce que...
Ça existait, la répudiation dans la civilisation chrétienne ?
Non, dans la civilisation chrétienne, non. Mais dans l'Ancien Testament, la répudiation a existé. Et la fonction de la répudiation, c'était de renvoyer la femme sous la protection de sa maison originelle, de sa famille originelle, pour qu'elle ne reste précisément pas sans protection. C'est ce qui rend incompréhensible, par exemple, dans le Nouveau Testament, le propos de Saint Joseph à propos, lorsqu'il doute, l'annonce de la grossesse de Marie, etc., où il se dit qu'il va la répudier en secret. Ça veut, sur le plan historique, son propos ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que ça veut dire qu'il va la jeter à la rue et qu'elle sera sans protection. S'il la répudie, il doit faire un acte de répudiation pour qu'elle puisse retourner sous la protection de ses parents.
Mais il y avait, alors, quel était le motif valable ?
De répudiation ?
Oui.
Alors, les motifs valables de répudiation, il y a effectivement la question de la procréation, ça c'est vrai. Mmh. Le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est...
Ah, quand même.
Et qui dit bien, et qui dit bien que le couple n'avait pas de valeur s'il n'avait pas d'enfant.
Ah.
Ouais. Et c'est là où le christianisme fait basculer les choses. C'est-à-dire que le christianisme dit bien, lui, que dans l'amour humain, dans l'amour conjugal, il y a une valeur en lui-même et que ça ne peut pas être soumis au nombre d'enfants, enfin, au fait
oui,
d'avoir
au fait
ou pas des enfants.
C'est très important de le...
C'est essentiel de le dire. À une heure où on est, enfin, on dit un peu tout et n'importe quoi sur l'enseignement de l'Église et sur la valeur qu'il accorde à l'amour humain et au mariage, l'Église a été... enfin, quand je rencontre mes couples qui me disent que c'est quand même dommage que pour l'Église, de toute façon, s'il n'y a pas d'enfant, l'amour humain n'a aucune valeur, bon, en fait, ils tiennent un discours chrétien, c'est-à-dire qu'ils ne le savent pas, mais en fait, ils ignorent totalement l'enseignement de l'Église, qui n'a jamais dit ça. Et en revanche...
Ils tiennent un discours qui n'est pas chrétien, vous voulez
mais,
dire.
Mais non. Ils tiennent un discours chrétien lorsqu'ils défendent la valeur de l'amour, de l'amour humain, même sans enfant, en étant persuadé que l'Église dit le contraire et qu'elle oblige à la procréation.
Ah oui, d'accord, c'est un malentendu.
Absolument, il y a un malentendu complet, c'est la société païenne. C'est la société païenne qui obligeait, qui réduisait la fonction du couple à avoir des enfants, et la société chrétienne a libéré le couple de cette obligation-là. Sans pour autant en nier l'importance. C'est ça qui est...
Ouais.
C'est là où c'est subtil, en fait. C'est que l'Église, elle dit pas que c'est l'un ou l'autre. Elle dit que ça reste important. Il est normal qu'un couple ait des enfants, mais on ne peut pas réduire la valeur de la vie conjugale, la valeur du couple
mariage.
Au fait qu'il ait des enfants ou non.
D'accord, oui, c'est bien clair.
J'espère.
Oui.
Parce que si même à Radio Courtoisie, nourris le malentendu, ce serait quand même terrible.
Non, non, puis il y aurait des auditeurs qui vous rappelaient à l'ordre ou qui me diraient, mais on n'a pas compris. Alors, je retourne à notre sujet, la sexualité, qui n'est pas forcément... qui est naturelle, c'est-à-dire que c'est une chose qui est bonne en soi, puisque Dieu l'a voulu. Et quid de avant le mariage, quid des célibataires, quid de l'homme du commun ou la femme, enfin ou la jeune femme, le jeune homme, puisqu'il a cet instinct dès la naissance qui se manifeste, on va dire, à la puberté, pour être explicite, et ça nous perturbe à partir de 13 ou 14 ans, selon la précocité. Alors comment je vais employer un mot épouvantable, comment on gère ça tout en étant un petit peu, comment dirais-je, ordonné et structuré, c'est-à-dire en ayant conscience que c'est à la fois naturel, une bonne chose, mais qu'on ne peut pas vivre sa sexualité dans un débordement sans limite, quoi.
Mais c'est là où tout se joue dans l'éducation que j'ai reçue, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, nous ne perdrions pas notre temps à redécouvrir la vertu de l'éducation aux vertus. La sexualité, comme vous le dites très bien, elle est naturelle, elle est donnée par Dieu, elle est bonne. Et il est normal que la personne ait le désir de l'union sexuelle. À nouveau, je reviens à la comparaison de la nourriture. Il est normal d'avoir faim, ça n'autorise pas à manger n'importe quoi, n'importe comment.
Et ah, ça c'est bien de dire ça n'autorise pas. C'est voilà, c'est parce qu'on a des pulsions sexuelles que un homme Un homme, ça s'empêche, comme disait Camus. Ben,
exactement, ouais. au même titre que j'ai des pulsions d'ordre de la gourmandise, d'ordre intellectuel, d'ordre je sais pas quoi. Bah, j'ai évidemment des pulsions sexuelles. Et comme toutes les pulsions, ça s'éduque. À ceci près sur la sexualité, c'est que c'est une pulsion particulièrement puissante et particulièrement envahissante.
En préparant ma chronique, j'ai remarqué que c'était toujours la puissance qui revenait.
C'est-à-dire ?
Et ben je l'ai souligné, c'est-à-dire que la sexualité est toujours liée à la puissance.
Oui.
J'ai même fait un détournement en disant on traite les hommes d'impuissants. Mais c'est, oui. Je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi on disait impuissant. Kenya, il bande pas, il est... Mais impuissant, je ne voyais pas trop pourquoi. Maintenant, je comprends pourquoi.
Mais il y a quelque chose de puissant, mais en même temps, il y a quelque chose auquel il faut faire attention quand on utilise ce mot puissance, c'est que ça suggère une interprétation plutôt masculine de la sexualité. Je ne sais pas si une femme utiliserait exactement le même mot.
Très juste.
Ce que je veux dire par la puissance de la pulsion sexuelle, c'est son côté envahissant et harcelant, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, quand les hormones se mettent en route dans la tête, aussi bien d'un adolescent que d'un adulte, tout finit par être orienté par ça. Et moi, je vois quand je... Il se trouve que je suis éducateur à la vie affective et sexuelle et conseiller conjugal et familial. Et les gens me le disent. Les adolescents peuvent me le dire. J'avais un jeune qui me le disait il y a quelques temps. Il me dit, mais il a 23 ou 24 ans.
Ah, c'est un vieil adolescent.
C'est un vieil adolescent. Il me disait, mais quand ça se met en route, c'est envahissant, quoi. Mmh. C'est vraiment. Et puis on voit bien. Hein,
c'est obsédant.
C'est obsédant. C'était le mot que je cherchais. C'est obsédant. Et on voit bien que tout le corps s'y met. Que tout le corps s'y met, le système nerveux réagit, les cinq sens jouent leur rôle, etc. Et donc c'est vraiment une éducation et une éducation à la tempérance que de gérer tout ça. Mais je crois que ce qui est essentiel à comprendre, c'est que le corps a un unique organe sexuel. Lequel ?
Le cerveau.
C'est le cerveau. Absolument. C'est le cerveau. Et que les hormones viennent du cerveau. Et que... Mmh. Ah bah si,
oui. Je fais... Je dote de l'hymne parce que je pense que à un certain âge, et vous le savez aussi bien que moi, vous l'avez dit vous-même, les hormones sont totalement, comment dirais-je, à taux plein de leur... De leur utilité, c'est la pleine forme, l'apogée de la force à la fois physique, la testostérone, etc. etc. Je pense qu'aussi, on peut être... Enfin, c'est pas hélas, c'est comme ça, c'est plus commandé par le corps que par son cerveau. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit... Les adolescents bourgeonnent, les adolescents, forcément, ça les travaille. En plus, ils sont en pleine croissance. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus de mérite pour un adolescent à se tempérer et à faire preuve de maîtrise quand ils y arrivent, plutôt qu'à un homme de 70 ans qui a peut-être un peu moins de libido et qui se dit « maintenant, je peux me calmer. Mes meilleurs souvenirs sont derrière moi. »
Je suis d'accord, mais néanmoins, il est essentiel de se rappeler que c'est moi le maître de mon cerveau. Et en fait, la distinction que je ferai, elle est celle de la pulsion, elle est celle du désir, et elle est celle de la volonté. Et en fait, tant que je n'ai pas compris que c'était ma volonté qui était maître de ma pulsion et que mon désir servait à orienter ma volonté, tant que je n'ai pas compris ça, je suis maître de mes pulsions. Je suis dirigé par mes pulsions. je ne suis pas maître de mes pulsions, justement. C'est-à-dire, et en fait, ce qui se passe dans mon cerveau n'est pas moi. Je suis supérieur à mon cerveau. C'est moi qui ai les commandes de mon cerveau. Mais c'est exactement comme le permis de conduire, ça s'apprend, en fait.
Je vous titille encore, si je puis me permettre.
Ça s'apprend. Non, mais ça s'apprend.
Oui, oui. Objection, monsieur l'abbé. quand vous êtes, puisque vous aimez bien les métaphores culinaires, quand vous êtes devant un bon repas, vous avez ce qu'on appelle l'eau à la bouche, les papilles. Il se passe la même chose, un peu plus bas, quand un adolescent commence à avoir des émotions fortes, si vous voyez ce que je veux dire, devant une jolie femme plus ou moins habillée. Or, là, c'est plutôt la pulsion qui va commander au cerveau.
Alors, je vais... c'est une excellente comparaison et qui donne de l'eau à mon moulin.
À propos de l'eau à
la
bouche.
Quand je vous dis que la question est éducative et que les questions d'affaires sexuelles, l'éducation à la sexualité, elle ne commence pas à 13 ans, elle commence au plus jeune âge. Il m'arrive quand même, une fois de temps en temps, comme curé de paroisse, d'aller visiter des familles. Et j'ai plusieurs fois été assez surpris, voire un chouille exaspéré, de voir la façon dont les parents s'amusaient de voir leurs enfants se ruer sur l'apéritif, vider les plats, tandis que nous, parents, nous étions encore en train de discuter. Et c'est la mécanique qui est en place est exactement la même que celle qui va se manifester quelques années plus tard sur la sexualité. C'est-à-dire que l'enfant voit l'apéro devant lui, les tranches de saucisson, les cacahuètes, machin, machin. L'enfant, quand je dis l'enfant, je dis le petit, hein, 3-5 ans. Hein.
Petite tranche de saucisson voilà. Avec un bon petit vin blanc.
Et évidemment, comme vous le dites très bien, il a l'eau à la bouche. Et il se précipite dessus, évidemment. Parce qu'il a vu quelque chose avec ses cinq sens, il a vu quelque chose qui a déclenché une pulsion, un désir, enfin une pulsion, une envie. Et donc, son cerveau a lâché les hormones dont il avait besoin pour qu'il se laisse guider par sa pulsion et qu'il se nourrisse de ce qu'il y a sur la table d'apéritif. Et là où le travail des parents est essentiel et gravement dommageable lorsqu'il n'est pas fait à cet âge-là, c'est de dire « Stop ! Je t'interdis de te servir maintenant, tu attends. » C'est-à-dire que là, l'enfant va exercer de manière très concrète la tempérance, c'est-à-dire qu'il va être obligé de dire à son cerveau, s'il ne veut pas être puni, il va être obligé de dire à son cerveau, tu ranges tes hormones, tu t'assieds et tu attends. Et là, à 3 ans, l'enfant va faire un exercice très concret de maîtrise de lui-même et donc de tempérance. Il va apprendre à attendre. Or, on est
Excusez-moi, mais à 3 ans, vous pensez qu'il va se jeter sur le Porto et le whisky? Parce que moi...
Ah bah, à 3 ans, il se jette sur le sifflard, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Sur le sifflard?
Ah oui, ça, c'est sûr. Oui, ou à 5 ans, si vous voulez.
Non, je
si
dis ça parce que chacun se replonge dans ses années tendres. Quand je voyais mes parents prendre l'apéritif, pour moi, de toute façon, c'était hors de question de prendre bien sûr de l'alcool quand même. Mes parents n'auraient jamais permis que je puisse prendre de l'alcool. Puis, de toute façon, j'aimais pas ça. Je crois que jusqu'à... Bon, à partir de peut-être de 12-13 ans, j'avais le droit à un petit verre de cidre le dimanche. Mmh. Mais j'aurais jamais été dans le verre de mon père. Je trouve ça dégoûtant. Il y a les adultes qui boivent ce truc-là si fort, dégueulasse. En revanche, pour le saucisson et les cacahuètes, effectivement, cacahuètes, c'était dangereux parce que quand on est petit, on peut s'étrangler. Mmh. Le saucisson, j'avoue, je m'en souviens plus. Mais ce qui est vrai, c'est que pour moi, c'était quelque chose d'adulte. Bon, mes parents... pour un enfant, je me souviens surtout que c'était plutôt en kikinant d'attendre le repas. C'est déjà très difficile pour un enfant de patienter. Mais effectivement, c'est un bon exercice de se dire, bon, bah, c'est pas le dîner, c'est pas encore le déjeuner, on attend.
Et puis, j'attends, je n'ai pas l'autorisation, mon cerveau, je ne suis pas soumis à mon cerveau, en fait. Je ne suis pas survie, je ne suis pas soumis aux hormones que mon cerveau lâche. Mmh. C'est moi le sujet.
Maîtrise du corps.
C'est moi le sujet. Maîtrise du corps, maîtrise de la pensée. Mmh. Mais regardez, même si je prends un autre exemple que celui de l'apéritif, regardez comment peut réagir un enfant d'un an affamé devant l'assiette qu'on pose devant lui.
Ah oui.
Mais c'est exactement pareil. Mmh. Et le parent qui va lui dire, tu attends. Mmh. C'est exactement pareil. C'est, or, sur la pulsion de faim est une pulsion qui est relativement maîtrisable par rapport à la pulsion sexuelle qui est infiniment plus puissante. Mmh. Vous avez, globalement, on a peu de criminels pour avoir dévoré tout cru le mollet de leur voisin parce qu'ils avaient faim.
Il y a des...
C'est quand même pas si fréquent que ça.
Comment
ça
s'appelle
En revanche, les tribunaux sont remplis de crimes sexuels de tout ordre, etc. Pour dire, y compris chez des gens très bien élevés, dont on ne soupçonnerait pas qu'ils soient capables de ça. Oui. C'est dire combien la pulsion sexuelle est puissante, en fait. Combien elle est débordante. Combien elle est une espèce de jaillissement. Oui. Comme une...
C'est vrai que la psychanalyse n'a rien inventé là-dessus.
Bien sûr que non. Freud, le grand mérite de Freud, c'est de dire factuellement des choses, c'est de rationaliser les choses, c'est de les intellectualiser. Et pour moi, Freud n'aurait pas pu dire ce qu'il a dit s'il n'avait pas été d'éducation juive, s'il n'avait pas été pétri par cette extraordinaire psychologie de l'être humain qu'est l'Ancien Testament.
Ouais. Ah oui.
Voilà, mais c'est un avis tout à fait personnel, et je ne suis pas un spécialiste de Freud. Et donc en fait, si sur une pulsion aussi aisée à maîtriser qu'est la nourriture, les parents dès le plus jeune âge n'apprennent pas à l'enfant à se tempérer, à faire l'exercice de la frustration, il ne faut pas s'étonner qu'à l'adolescence il soit incapable de se maîtriser, et plus encore quand il sera adulte. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce beau don qu'est la sexualité, vraiment, il, comme tous les dons, il s'éduque et il doit être vécu dans l'exercice de vertu, de tempérance, de justice, de force et de prudence. Vraiment.
Alors, il faut quand même se rendre compte qu'on ne se marie pas... Tout de suite, on se marie adulte, et parfois on ne se marie pas du tout. Et donc, il faut aussi tenir compte de la sexualité hors mariage, qui est, qu'on le veuille ou non, un fait, et qui le sera, qui l'est de plus en plus, puisqu'il y a plus, les gens ne se marient plus maintenant. Bon, et puis en plus, avec ces histoires de familles recomposées, décomposées, comme on veut, de remariage, etc., on ne sait plus donner de la tête, si je peux dire. Donc il y a une sexualité qui n'a plus rien à voir avec la tempérance, éducative ou encore moins religieuse, puisqu'il y a beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire pour autant, attention, je n'ai pas dit que c'était tous des harceleurs ou des gens affamés de sexe ou de je ne sais pas quoi, mais simplement, là on parle, puisque c'est le sujet. Dieu et le sexe, mais il y a beaucoup de personnes, soit qui ne connaissent pas Dieu, ou qui lui ont tourné le dos, et pour autant, ce seront toujours des êtres humains qui chercheront soit à se reproduire, ou à tout simplement assouvir leurs pulsions. Et c'est intéressant de savoir comment l'Église, ou j'allais dire Dieu, peut voir quelqu'un qui aurait une sexualité donc totalement hors mariage, qui n'est pas ordonnée, est-ce qu'il est dans le péché, dans le vice, perdu à jamais, ou est-ce que dans sa grande mansuétude, Dieu se dit mieux vaut qu'il ait une sexualité maintenant à 20 ans, à 30 ans, plutôt que de le brider et qui risque de devenir dangereux pour la société.
Alors, d'abord, je ne vais pas parler au nom de Dieu. Hein.
Non.
Je ne vais pas parler à sa place, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, j'essaie juste d'être modestement le à mon petit niveau, le relais de l'enseignement de l'Église dans ce qu'il peut y avoir de recherche continue pour l'Église. Hein, la mission de l'Église, c'est d'accompagner l'humanité dans sa réalité pécheresse. Et donc, à la fois, elle donne des catégories pour pouvoir se repérer, et en même temps, elle favorise un dynamisme de relation à Dieu. Le péché, c'est important de ne pas oublier que c'est un concept qui n'a de valeur que dans un cadre croyant et chrétien. Et le péché, il impose même une relation à Dieu. Je n'offense pas quelqu'un que je ne connais pas.
Ça serait presque l'objet d'une autre émission, mais on en a un peu parlé. Effectivement, pour vous, il y a péché que si on en a conscience.
Oui, alors il y a bien ou mal, ça c'est une...
Tout le monde n'est peut-être pas d'accord là-dessus.
Non mais peut-être, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est très clair dans l'enseignement de l'Église. Le péché suppose une relation à Dieu. Voilà, le péché, c'est quoi? C'est ce qui touche le commandement que le Christ nous laisse, l'amour de Dieu, du prochain et de soi, comme le Christ nous l'a enseigné. Voilà, c'est ce qui touche
à ça. Vous êtes en train de dire que vous ne pouvez pas désobéir à quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Exactement. Ouais. Exactement. Si je ne vous connais pas, je ne peux pas dire du mal de vous.
Oui, mais ça me fait penser...
Maintenant que je vous connais, je peux en dire beaucoup.
Oui, mais... vous ne vous gênez pas d'ailleurs. ça se sait. Mais par exemple, un juriste vous dira « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et ce n'est pas parce que vous ne la connaissez pas qu'on ne vous punira pas si vous l'enfreignez.
On ne peut pas mélanger tous les plans. Et c'est là où c'est important d'être justement. Les Grecs et la pensée occidentale nous ont laissé des catégories qui nous sont très utiles. Qu'un juriste me dise « nul n'est censé ignorer la loi », c'est vrai, mais il me le dit dans un cadre précis qui est celui de l'état dans lequel je me meus et dans lequel j'ai commis une faute. Si j'ignore la loi de l'état dans lequel je voyage ou je vis, etc., etc., de fait, c'est de ma responsabilité. Voilà. En revanche, si je ne connais pas Dieu, parce qu'on ne m'en a jamais parlé, tout simplement, on ne peut pas me reprocher de ne pas connaître la loi de Dieu. En revanche, Dieu a déposé dans le cœur de l'être humain une connaissance du bien et du mal.
Ah.
C'est ce que l'Église appelle la loi naturelle. Éviter le mal et faire ce qui est bien. Et là, on voit bien que de manière assez universelle, me semble-t-il en tout cas, toutes les dépravations sexuelles, toute forme de dépravation sexuelle ont été condamnées, même si ce que nous considérons, nous, comme de la dépravation sexuelle aujourd'hui, n'était pas forcément de la dépravation sexuelle autrefois.
Les orgies romaines n'avaient rien de...
Voilà, mais c'est dans un cadre qui est socialement assumé, qui est cadré. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà,
Je n'y étais pas.
Moi non plus, je n'y étais pas. Je ne suis pas non plus un spécialiste des orgies romaines. Ouais. Mais on est dans un cadre social et la mentalité du temps autorise ce type d'excès. Ça peut nous paraître ignoble et écœurant, le sujet n'est pas là. La culture de l'époque autorise ce type d'excès. Quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, par exemple, c'est la question de l'éphébophilie, l'amour de l'adolescent.
Ah oui.
Chez les Grecs, l'amour de l'adolescent est parfaitement toléré. Et c'est tellement toléré que c'est même un système éducatif. C'est-à-dire que tout adolescent, garçon, à partir de 13 ans, était initié par un adulte mûr à la sexualité. La seule chose qui était interdite, c'était la sodomie. Voilà, il ne devait pas y avoir de sodomie parce que ce n'était pas de l'homosexualité. C'était bien une éducation sexuelle qui visait justement à ce que l'adolescent ait une pratique tempérante de sa sexualité, tempérante et prudente de sa sexualité. C'était ça l'objectif. Aujourd'hui, ça nous horrifie parce que de toute façon, on ne comprend rien.
Tout est mélangé, les gens confondent.
De fait, on mélange tout. Donc, voilà. Mais l'éphébophilie chez les Grecs, elle est extrêmement cadrée. Ils ont été au gynécée jusque vers, jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, ils quittent le gynécée. Ils sont pris en charge par, par un homme adulte, mature. Ouais. Et ensuite, ils vont mener leur vie. Ce qui est reproché à Socrate, c'est d'aimer les jeunes adultes.
On va y revenir tout de suite. Nous verrons ce qu'ils feront, parce que je me demande ce qu'ils devaient bien faire, ces Grecs, avec leur effet. Petite pause musicale.
Le pape a dit que l'acte d'amour, sans être marié, est un péché. C'est ta nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Donc pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Tout est dit, mais mes fidèles sont partis. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton pape m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Non, pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ah, ne faites pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Vous êtes toujours en direct au Bal des Facétieux. Je reçois aujourd'hui l'abbé Jean-Eudes Gilbert pour parler de sexualité. Alors, nous étions en pleine Grèce antique lorsque nous avons été interrompus par Eddie Mitchell. Pas de boogie-boogie avant vos prières du soir, pas de boogie-boogie. Et donc, reprenons, puisque vous étiez en train de dire que les Grecs pouvaient initier à la sexualité un éphèbe. Mais je vous disais hors antenne, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire?
Je ne tenais pas la chandelle.
Mais oui, mais si la sodomie est interdite, qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous pouvez faire plein d'autres choses. Hein.
Ah bon? Eh bien, nous n'allons pas nous étendre, hélas, sur le sujet, puisque nous n'en serons... Oui, personne n'était là pour le savoir. Non, mais c'était une éducation...
Mais très concrètement, l'éducation à la relation sexuelle, c'est-à-dire que la capacité à éveiller le désir, la capacité à prendre le temps de caresser l'autre. Toutes les enfin, moi, je vois en conseil conjugal combien, quand la sexualité arrive sur le tapis, il y a un problème d'accord des rythmes. Et globalement, dans la relation sexuelle, l'homme est très vite disponible et passe très vite à autre chose, alors que la femme a besoin de temps. Ben, ça suppose quand même, l'air de rien, apprendre... lorsque l'adolescent est tout seul et qu'il se masturbe, en 15 secondes, le sujet est réglé. Ben, c'est pas comme ça qu'il va apprendre...
Joueur, 15 secondes.
C'est pas comme ça qu'il va apprendre la tempérance, la nécessité de prendre du temps, la capacité à se contrôler.
Le grand qui avait de l'expérience apprenait aux jeunes le plaisir féminin.
Alors, peut-être, en tout cas, il y avait une éducation, il y avait vraisemblablement de ce qu'on arrive à en comprendre, parce que c'est quand même, on a quand même, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, pas beaucoup de photos, et puis bref. Ouais. Donc, mais de ce que l'on peut imaginer, en tout cas, c'est quand même effectivement un apprentissage par quelqu'un chez qui les hormones se sont un peu apaisées, voire beaucoup en fonction de l'âge, pour un plus jeune chez qui les hormones battent leur plein, un apprentissage de la maîtrise de soi, simplement.
C'est déjà pas mal, parce que c'est un peu du stoïcisme aussi, c'est le fait de pouvoir un peu être maître...
peut-être, alors je rentrerai pas, enfin, peut-être, mais en tout cas, la sexualité, elle est d'un point de vue anthropologique et spirituel, elle est extrêmement intéressante, parce qu'elle nous renvoie vraiment aux confins de nos contradictions, et aux confins à la fois de notre idéal de vie, de ce que nous désirons vivre profondément, de ce que je situe chez les jeunes, le désir du cœur, le désir d'aimer et d'être aimé, et en même temps sur la réalité de nos faiblesses et de nos limites.
Alors, puisque tout à l'heure, vous disiez, celui qui ne connaît pas Dieu, en quelque sorte, ne pêche pas. Donc, si on n'est pas baptisé, allons-y, Folleville.
Oui, mais si j'ai conscience que ce que je fais est mal...
Là, il y a péché.
Il y a péché parce que j'ai un regard chrétien, enfin croyant, sur l'acte mauvais. Mais il n'en reste pas moins que je peux, pour un non-croyant, non baptisé, bidule, machin, chouette, etc., etc., il peut faire le mal sans pour autant avoir la conscience de péché. Puisque de toute façon, il ne connaît pas Dieu, donc il ne l'insulte pas. Il n'en reste pas moins qu'on n'a jamais eu besoin. On n'a jamais eu besoin du christianisme pour condamner le viol.
Non, fort heureusement, mais...
Avoir des relations forcées avec quelqu'un, ça a été condamné de tout temps.
Vous dites qu'il ne peut pas blesser Dieu puisqu'il ne le connaît pas. Sans le connaître, vous pouvez blesser par inadvertance.
Il ne peut pas avoir l'intention de blesser Dieu puisqu'il ne le connaît pas. Dans le péché...
Mais non, c'est différent.
Non, mais bien sûr que c'est différent. Ouais. Mais tout mal blesse Dieu, ça c'est certain. Mais le péché, c'est important de ne pas perdre de vue que le péché, je ne peux pas... S'il y a une dimension objective au péché, il y a une dimension subjective qui est autant constitutive du péché.
Alors, revenons sur cette objectivité. Qu'est-ce qui retient un païen de copuler, je dis bien copuler, parce que le terme est adéquat, puisque c'est la relation sexuelle hors mariage, à partir du moment où ces deux êtres, on prend un jeune homme, une jeune fille, qui s'attirent et qui ont un amour d'adolescent, quoi, comme on en a tous eu, des petites amourettes, etc. Qu'est-ce qui les empêche de copuler avant le mariage si, après tout, il n'y a pas offense ni à Dieu ni à diable?
S'ils n'ont pas de morale chrétienne, qu'ils n'ont pas le sentiment de faire quelque chose de mal, et que, de surcroît, avec la technique contemporaine, ils sont à peu près sûrs, c'est-à-dire chez les ados, ils sont quand même très capables de faire n'importe quoi. Donc, j'en ai une bonne à vous raconter là-dessus, c'était assez drôle. Mais bref, a priori, et c'est bien ce que font les parents d'ailleurs. Du moment que tu n'as pas d'enfant, tu fais ce que tu veux. Est-ce que c'est éducatif? Est-ce que ça leur permet de grandir dans de manière épanouissante à leur propre sexualité, à leur propre affectivité? Je n'en sais rien. C'est pas mon enfant, je ne suis pas là pour juger. J'ai plutôt tendance à dire que je ne le crois pas, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas en situation. Ce qui est quand même, enfin, ça, la question autour de laquelle vous tournez, c'est la question de la place de la frustration. C'est-à-dire, est-ce que la frustration peut être féconde ou pas? Et dans le domaine de la sexualité, il faut pas rêver. S'il n'y a pas d'éducation à la frustration, la sexualité, elle va être extrêmement compliquée à gérer. La pulsion va tenir. Non, mais ce qui veut dire que nos deux ados, là, qui sont gentiment amoureux à 15 ans,
famille,
etc.,
quand même éduquée, intellectuellement structurée,
mais qui n'ont aucune référence morale religieuse particulière. Et donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas pertinent? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils ont 15 ans et comme ils sont amoureux, ils ont évidemment envie de coucher ensemble. Mmh. D'autant plus que leur corps est parfaitement disponible.
Ne demande que ça.
Pour avoir des enfants, ça ne demande que ça. Et au-delà de la question de savoir s'ils sont capables d'assumer, etc. Pourquoi est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'ils aient de relations sexuelles? Parce qu'il est important pour les deux, il est important qu'ils apprennent à assumer la frustration. Et qu'ils découvrent et qu'ils enclenchent leur intelligence en se disant, bon, on a envie d'avoir des relations sexuelles. C'est-à-dire qu'en fait, on veut se dire que l'on s'aime de cette façon-là. Mais comme nos parents sont des vieux schnocks, ils veulent pas, et comme on est des adolescents débiles, on obéit à ses parents. Comment est-ce qu'on va gérer la frustration? Et là, vous avez quelque chose de vraiment grand qui peut s'ouvrir pour le couple, y compris pour le couple adolescent, c'est-à-dire que, en fait, comment est-ce qu'on va enrichir le vocabulaire avec les mots, avec les gestes, les temps? Il y a un conseiller conjugal américain qui a pondu ça, c'est un vrai best-seller, et il n'a pas tort. Il appelle ça les cinq langages de l'amour. Donc c'est les compliments, les cadeaux, le temps passé ensemble, les services rendus et les caresses. Et bien comment est-ce que le couple qui est frustré dans sa relation sexuelle, dans son désir de relation sexuelle, pardon, comment est-ce que ce couple-là, qui est frustré dans son désir, va investir la frustration pour enrichir son vocabulaire amoureux dans ce vocabulaire polymorphe dont il va tirer bénéfice dans la durée?
Il faut que les deux soient d'accord, hein, parce que sinon, il y en a des deux qui se barrent, surtout un adolescent.
C'est très bien,
si la fille ne veut pas, le mec se barre.
C'est très bien, il se barre. Très bien, parfait.
La petite anecdote, c'était quoi? On a 5 minutes. Je sais pas, c'est vous qui en avez parlé.
Vous me demandez ça avec des yeux
ronds. Mets-le à la bouche.
J'ai eu une demande un jour de baptême, il y a quelques années de ça. Une dame d'un âge avancé qui vient me voir pour me demander le baptême de sa petite fille. Je lui dis, écoutez madame, c'est aux parents de venir, quoi. Elle me dit, oui mais vous comprenez, ma fille est mineure, elle sait pas comment s'y prendre, etc. Ah bon,
commence bien.
Et là, elle me raconte la grossesse de sa fille qui, en fait, a fait un déni de grossesse. Donc, ils ont découvert, au moment de son accouchement, qu'elle était enceinte. Elle a accouché dans la salle à manger en mettant le couvert, quoi. Et la fille ne comprend pas comment elle était enceinte parce que parce qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec son copain.
Et la vie, elle est en fleuve tranquille.
Ça. Je regarde la grand-mère ironiquement et je lui dis, vous savez, le coup de la relation sexuelle, enfin du bébé sans relation sexuelle, on nous a fait le coup une fois dans l'histoire, donc c'est déjà gros là. Ouais. Faut, elle me dit, écoutez, Et en fait, les adolescents, ils ont cette espèce de capacité à s'imaginer que, en fait, et ça en dit long sur la mauvaise éducation sexuelle contemporaine. Ils sont obnubilés quand j'interviens dans les établissements scolaires, ils sont obnubilés par les maladies. Ça, les MST, ils ont bien compris ça. Donc il faut mettre des préservatifs parce que ça protège les MST.
Oui, ça commence mal d'ailleurs. C'est atroce de commencer la sexualité comme ça.
C'est épouvantable.
Heureusement, je suis d'une génération avant SIDA, mais je l'ai échappé belle. Hein.
Et il faut, quand je leur pose la question, quelle est la première conséquence des relations sexuelles, il me faut au moins 5 réponses avant d'avoir comme réponse avoir des enfants.
Ah, parce qu'avant, c'est les MST.
Parce qu'avant, ils me sortent toutes les MST qu'ils connaissent.
Maladie sexuellement transmissible.
Avant, ils m'ont cité
c'est
tout.
Affreux.
Mais c'est terrible.
C'est affreux.
On leur bourre le crâne avec ces années-là.
La jeune fille, elle avait un petit ami.
Pardon ?
La jeune fille qui avait...
Non, mais la jeune fille, elle avait un petit ami et ils ont joué à...
Papa-maman.
Voilà, ils ont joué au docteur.
Oui. Plus que ça, même à papa-maman.
Ils ont joué à papa-maman.
Elle voulait pas le...
Et j'imagine très bien. Et c'est tout à fait possible que sans pénétration, il y ait eu un petit spermatozoïde qui se soit dit « Ah, je vais m'amuser ».
Ah oui ?
Ah oui. C'est... Voilà, il suffit qu'il ait éjaculé pas loin. Qu'il ait éjaculé pas loin. Et parler d'éjaculation radio courtoisie, j'aurais jamais imaginé ça.
Faut appeler un chat
qu'il éjaculait pas loin, que voilà, que dans l'excitation, les hormones, les machins, les trucs, les choses, ils sont au top. Mais... jusqu'à 30 ans on est au top, même 35 ans on est au top du fonctionnement de
nos hormones. Aujourd'hui on parle d'éducation sexuelle à tout va, ça en est même un peu écœurant. Et qui encore, parce que ce que vous me racontez là, c'est il n'y a pas 100 ans. Hein, je précise que
c'est
Gilbert a 35 ans.
C'est ça.
Non, à peine 50. Et donc, ce que vous racontez là, c'est quoi ? Il y a quelques années. Donc, c'est des gens d'aujourd'hui.
Et
malgré ça, ils n'avaient pas...
Moi, j'ai eu...
C'est fou, ça.
J'ai eu une jeune qui m'a dit... donc, elle a des relations sexuelles avec son copain. Elle a 17 ans. Et je lui pose la question. Je lui dis, vous vous protégez au moins ? Elle me répond, ah non, mais ça sert à rien parce qu'on a fait des tests et on n'est pas malade.
Ah bah écoutez, ça part d'un bon sentiment.
Alors,
et bah ils vont faire des petits.
Enfin, 17 ans quoi.
Bah, vous savez, autrefois on mariait les jeunes filles à 15 ans. Hein.
Non mais certes, certes, mais aujourd'hui ça ne se fait plus, au cas où ça vous aurait échappé.
Si, il y a une dispense.
Ah bon, Mais pour vous dire,
travailler dans une mairie, je sais qu'il y a des jeunes filles qui se marient à 17 ans.
J'ai eu une collègue éducatrice à la vie affective et sexuelle qui... intervenant devant un groupe de filles, leur pose cette question. Quelle est la première conséquence des relations sexuelles ? Et donc, elles lui font la liste des MST. Et elle les regarde, mi-ironique, un peu ironique. Elle dit, mais vous savez, quand même, les relations sexuelles, la conséquence normale, c'est un bébé. Et là, le groupe de filles explose de rire, et il y a une des filles qui lui dit « Mais madame, on est trop jeune pour ça, c'est pas pour nous. » Voilà, donc on a réussi, si je reviens à l'exemple de la nourriture, on a réussi à totalement séparer le repas, le plaisir du repas, du fait que le repas doive nourrir.
Ouais.
On a réussi ici ça, et vous faisiez allusion à l'épidémie de sida, et c'est le sida qui a permis ça. C'est le sida et la mentalité contraceptive qui a permis ça.
Justement, j'allais l'aborder. Alors, on va partir d'un parce que, évidemment, puisque l'Église voit mal les relations sexuelles hors mariage, on va accentuer la difficulté. La contraception dans le mariage, quid ? Qu'en pensez-vous ?
Alors, On va revenir à la question de, au sujet de départ, qui est la question de la régulation des naissances. La contraception, c'est contre la conception. Donc, a priori, si je me marie, de surcroît, si je reçois le sacrement de mariage, c'est que je suis pour la conception.
Pour se ligaturer les troncs.
Voilà. Il y a des outils contraceptifs qui sont clairement incompatibles avec une vie de foi cohérente avec l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire tout ce qui est avortif. C'est le stérilet, la pilule du lendemain et tous ces trucs-là. Il y en a deux. Enfin, les moyens uniquement contraceptifs, pas avortifs. Moi, je fais partie des prêtres où je dis, on peut en discuter. Mais on peut en discuter dans le cadre d'un couple qui a un projet, qui a le et puis voilà. Et puis, il faut que le couple il faut que le couple discerne. Donc, il faut les aider à... Il faut les aider dans ce sens-là. Il n'y a pas de condamnation outil après outil de l'Église. Voilà, il y a des interpellations de l'Église nombreuses sur les questions de contraception, d'assistance médicale à la procréation, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Après, qu'est-ce que quand le couple qui veut réguler les naissances se pose la question d'un usage contraceptif, de l'usage d'un contraceptif? Pourquoi est-ce qu'il va sur ce terrain-là? Pourquoi est-ce que les méthodes naturelles qui sont en situation réelle aussi efficaces que le préservatif et la pilule, en situation réelle, j'insiste là-dessus, pourquoi est-ce qu'il ne va pas par là? Et c'est là où intervient le rôle de l'accompagnement pastoral, c'est-à-dire que le respect pour l'accompagnateur, pour le prêtre, et le respect de l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire que l'enseignement de l'Église, certes, est dit non à la contraception, ça c'est vrai, c'est-à-dire non à la distinction de la finalité naturelle et du plaisir. Et non à cette distinction-là.
Pour être concret, le coitus interruptus, c'est permis.
Ouais, mais alors catégorie inefficace plus quoi. Donc mais si on veut. L'Église rappelle que c'est le couple qui décide de la façon dont il va réguler les naissances, c'est-à-dire du nombre d'enfants qu'il aura et du rythme auquel il les aura. Et c'est au couple qu'appartient cette décision-là et à personne d'autre. L'élément extérieur, qu'il soit prêtre, qu'il soit conseiller conjugal, qu'il soit je ne sais pas quoi d'autre, qu'il soit animateur ou accompagnateur en méthodes naturelles diverses et variées, il joue un rôle d'éclairage de la conscience. C'est ça sa mission. Il n'a pas à dire vous faites ci et vous ne faites pas ça. Et si le couple décide en conscience d'utiliser le préservatif ou de prendre la pilule...
Ça les regarde.
Ça les regarde. Moi, je me souviens d'un couple.
C'est ouvert.
Bah, écoutez, non, mais je suis ouvert, mais j'ai des gens, gens en face de moi.
C'est pour ça que je vous pose des questions très concrètes.
J'ai pas des bouquins. J'ai un couple. Pardon. Je prends un exemple très concret d'un couple qui voulait utiliser les méthodes naturelles et elle était hôtesse de l'air. Mmh. Donc, en fait, les vols en avion, en altitude, l'altitude bousillait complètement ses bousiller ses règles et surtout ses symptômes.
Ah bon ?
Voilà. Et son corps était dérégulé, etc. Et il me disait, on ne peut pas utiliser les méthodes naturelles à cause de ça. Parce qu'en fait, son corps est complètement brouillé et c'est illisible. Et le cycle est illisible. Bah, c'est du réel, quoi. C'est du réel. Et ben, je préfère. Faut pas concevoir, mais
c'est dommage parce que
voilà. Soit elle change de métier, soit elle change de métier, ce qui est une possibilité, c'est une décision à prendre en couple.
C'est un exemple.
Soit ils font le choix et ils ont fait le choix d'autres choses. Je suis pas allé voir quoi, mais de fait ils ont fait le choix d'un moyen artificiel de régulation des naissances. Mais mais qui n'était pas évidemment
qui n'était pas avortif,
qui ne mettait pas en danger la vie de l'embryon en cas de fécondation, etc.
Alors, le temps presse, donc je vais aller droit au but avec un petit quiz, comme ça vous répondez oui, non. Alors je sais bien que parfois ça va être un peu compliqué, vous allez me dire bah ça dépend, etc.
Ça.
Mais en une phrase. Alors la masturbation, je dis bien solitaire, péché, pas péché.
En tout cas, pécamineux.
Donc, péché à véniel.
En tout cas, pécamineux. Me renvoie à ma faiblesse. Et rien que ça, ça vaut le coup.
La masturbation en couple marié. Péché, pas péché.
Pécamineux.
Mortel, véniel.
Ça dépend de la dynamique dans laquelle
vous hésitez. C'est que c'est véniel, alors.
Ouais, ça dépend.
Regardez des films porno. Seul.
Ah bah
pécamineux.
Péché. Non, ça vraiment faut pas. Ça
péché.
Vraiment péché grave.
Péché,
là.
Péché mortel. Grave.
En tout cas, il faut le confesser, Fissa, ouais.
Regarder des films porno en couple.
Non, pareil. Le porno, c'est de la merde.
La fellation en couple marié.
Ça vient du porno, hein. Ça vient du porno.
Je ne sais pas.
Si, ça vient du porno. Ça s'est diffusé par le porno, en tout cas. À nouveau, c'est une question de dynamique au sein du couple, mais pas bon signe.
Ouais. Bon, donc, péché véniel. Ah, c'est dur, hein. Je vous avais dit, hein.
C'est pas bon signe. Il y a du pécamineux dans tout ça.
D'accord. Donc, pareil pour le cunnilingus en couple. Marié, j'entends.
Les contacts bucogénitaux.
C'est parfait pour.
Bah ouais. Il y a un organe qui est fait pour pénétrer le vagin et un organe qui est fait pour accueillir le pénis.
Donc je parle même pas de la pédication en termes
alors.
De voilà. Aller vers son aller avec son conjoint dans un club échangiste.
Non,
péché
non,
ou pas péché,
péché. Péché, 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 péché. Il n'y a pas de débat sur le sujet.
C'est un acte de générosité.
C'est
du candolisme
d'offrir
son conjoint.
Dans ce qu'il y a de la pire espèce.
Faire l'amour avec son conjoint sans vouloir d'enfant.
Alors
là, je sais que c'est, on en a parlé. C'est pas péché si c'est pas toujours le cas.
Si c'est, si c'est à un moment où on ne veut pas d'enfant parce que le dernier a 3 semaines et que voilà, bah oui, très bien.
Bah, donc prendre la pilule pour une femme mariée, là, c'est chimique, donc c'est plutôt pas bon.
C'est pareil. Quel est le contexte? Quel est le contexte?
Perdre sa virginité.
Mais attention quand même, le problème, et là l'Église a complètement raison, sur les moyens artificiels de contraceptifs, il y a le problème de la maîtrise. Et c'est là où il y a quelque chose de pécamineux, en fait. Et c'est là où il y a quelque chose de vicié, c'est la volonté de maîtriser.
Ah, ben bah oui, mais alors c'est. En même temps, vous dites qu'il faut maîtriser son cerveau, ses pulsions, etc. Donc c'est vous avez
oui mais maîtriser mais maîtriser ouais. Se maîtriser soi se maîtriser soi c'est pas ouais. c'est pas avoir recours à un outil pour maîtriser quelque chose qui naturellement me dépasse.
Oui, c'est je prends la comparaison audacieuse, c'est-à-dire c'est comme les écologistes qui n'aiment pas les forêts vierges, ils veulent faire des grandes allées pour qu'on puisse faire du vélo ou de la marche, etc.
Oui.
Donc c'est plus la nature, ou mettre de la nature dans les villes avec des petits carrés d'herbe qui sont des trottoirs. Oui. Et ils se croient écolo parce que la nature est
c'est
là,
ça.
Mais en fait c'est pas
c'est
la
ça.
Nature.
Oui.
C'est l'homme qui veut imposer la nature là où elle n'a pas lieu d'être.
C'est ça, et c'est là où il y a une vraie question autour de la... De la question de la maîtrise, c'est-à-dire que réguler les naissances, oui, maîtriser intégralement ma sexualité au point de nier le fait que le don de Dieu est toujours bon et donc que ce don parfois, que ce don, il est naturel qu'il me déborde et que je ne le maîtrise pas.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
C'est ça le sujet qui est derrière,
c'est
en
ça,
fait.
Ouais. Oui, c'est pour ça que il y a quelque chose de très proche de la sexualité et le divin, parce que c'est la création.
Oui, bien sûr. La ligne de crête est entre le vice et la vertu est vraiment
c'est
fine.
Facile,
et
moi,
particulièrement c'est vrai, dans le domaine de la sexualité. On est dans le domaine où je crois que la ligne de crête entre le vice et la vertu est la plus fine.
Oui, c'est ce dont je me suis rendu compte, d'où mes dernières constatations d'introduction. Quid, alors on en a parlé, quid du mariage non consommé.
Il est normal que le mariage soit consommé. Ouais.
Et si, par exemple, alors je prends l'exemple d'une femme ou d'un homme qui se refuserait à son...
C'est qu'il ne fallait pas qu'il se marie.
Oui, mais je pense que c'est plus commun qu'on ne croit.
S'il n'y a même pas la première relation sexuelle, admettant qu'ils n'aient pas déjà vécu en couple 15 ans pendant 15 ans avant. Mais si la nuit de noces, il y a un refus de relation sexuelle.
Elle monte sur la roue.
Cela dit, par ailleurs, pour les jeunes couples ceux qui sont fiancés qui nous écouteraient, je vous conseille plutôt de ne pas avoir votre première relation sexuelle. Enfin, de ne pas avoir de relation sexuelle la première nuit où vous êtes marié, parce que vous êtes fatigué, pas disponible, pas l'écoute l'un à l'autre. Attendez la deuxième
nuit.
Donc
le lendemain, dormez à 5h du matin avec le billet d'avion pour aller à Ouchnok.
Dormez bien et il faut être disponible pour avoir une relation sexuelle qui soit saine.
Tellement agréable, une bonne nuit à côté de son être cher, sans juste ça se regarder. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai fait le tour de mon petit quiz. Alors, on a peu abordé, mais il nous reste quand même 10 minutes de la technique. Il nous reste 8 minutes. Tout ce qui est ce qu'on appellerait les nouvelles sexualités. Alors, l'homosexualité, péché ou pas péché?
Il n'y a pas de débat.
Alors, je dis bien qu'on est là pour blâmer le péché, mais pas le pécheur.
Oui. Et puis, il y a une autre chose, c'est-à-dire que c'est important de ne pas perdre de vue tout. Je déjeunais à midi chez un couple de femmes, donc de femmes homosexuelles, et ma pulsion sexuelle, enfin ma tendance sexuelle ne dit rien de ma vie de foi.
Ouais. Oui.
Je peux être complètement... Louis XV était un épouvantable pervers et profondément croyant. Il n'a pas communié pendant 40 ans parce qu'il avait une vie tellement dissolue sur le plan moral. Il manquait tellement de maîtrise de lui-même, de tout ce dont on vient de parler, qu'il n'a jamais communié. Mais il était à la messe tous les jours et il était profondément croyant.
Oui.
Donc, vraiment, il ne faut pas...
Jésus est venu pour les pécheurs. Hein.
Non, mais exactement. Ouais. Donc, autant lui donner du boulot, quoi, qu'il ne soit pas venu pour rien.
Oui, ça, je crois qu'il n'est pas venu pour rien, d'ailleurs. mais la pratique, alors, avoir des tendances homosexuelles, ma foi, c'est peut-être une chose à maîtriser, encore une fois. Mais la pratique de l'homosexualité est un péché.
Oui, la pratique de l'homosexualité est un péché, oui.
On n'est pas chez les Grecs.
Mais même chez un homosexuel qui vivrait en couple avec des relations sexuelles, etc., toute situation pécamineuse durable dans laquelle il soit, ça ne dit rien de sa vie de foi.
Oui.
Il peut avoir une vie de foi d'autant plus éveillée qu'il est bien conscient de la situation dans laquelle il se trouve.
Très bien, très bien. Peut-être une question que vous auriez aimé aborder, qu'on n'a peut-être pas... dont on n'a pas assez parlé ou pas du tout. Vous m'avez donné des thèmes abordés sur le plaisir, sur le but du mariage, on en a parlé.
Je crois que sur la sexualité, je crois que la première chose à faire, c'est vraiment, c'est prendre les choses dans l'ordre, c'est le cas de le dire. Et donc de manière paisible. C'est-à-dire qu'on a... On reproche à l'Église d'avoir un discours complètement coincé sur la sexualité, etc. En réalité, l'homme a beaucoup de mal à avoir un juste rapport à cette pulsion qui le déborde, qui le dépasse. Je me souviens un jour d'un jeune d'un autre jeune qui me parlait de masturbation, et je lui ai dit: la première chose que tu as à faire, c'est de contempler ta sexualité. C'est de la contempler. C'est un don que Dieu te fait. Et en fait, le défaut que nous avons, mais qui est dans l'être humain, c'est tellement bizarre ce truc, objectivement. C'est tellement bizarre. c'est à la fois source de très grande beauté et en même temps
De culpabilité. De culpabilité. Est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est les,
mais c'est le cœur de l'homme.
C'est-à-dire que on a tous éprouvé ça, le fait de, d'être relégué à sa misère humaine, c'est la sexualité du pauvre, etc. Il y a quelque chose de honteux et culpabilisant.
En fait, la honte autour de la sexualité, la culpabilité autour de la sexualité, elle vient de la culpabilité de l'adolescent qui se masturbe. Un adolescent qui se masturbe, on pourrait croire qu'il n'y a rien de plus commun et rien de plus banal et que c'est vraiment pas grave. Pour lui, c'est grave. Pour lui, c'est grave. Et on voit bien comment ils deviennent tous écarlates dès qu'on parle de quand je suis en intervention devant des classes, devant des ados, des collégiens ou des lycéens. Ouais. Comment tous les mecs deviennent écarlates dès que je parle ça rigole comme des débiles, oui. etc. Ouais. Et nous sommes marqués par ce mal à l'aise originel, où notre première expérience de la sexualité, c'est le sentiment d'avoir eu un plaisir, de s'être donné un plaisir interdit. Et c'est vrai aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et et alors après, à partir de là, tout s'emballe.
C'est bizarre parce qu'on la découvre là au corps naturellement. C'est les fameuses cartes de France que l'on fait involontairement.
Bien sûr. Bien sûr. Et puis c'est l'adolescent qui sent son pénis qu'il chatouille, et avec lequel il joue et il se donne du plaisir, il s'en donne de plus en plus et subitement il éjacule.
Mais s'il n'avait pas une éducation religieuse, vous pensez qu'il serait aussi coupable?
Rien à voir.
D'accord. Donc il se sent coupable.
Il se sent coupable.
Ah oui.
Il se sent coupable. Ouais. Et ça, c'est vraiment, et c'est dans la structure de l'adolescent, du cerveau de l'adolescent, c'est qu'il se sent coupable après la masturbation. C'est intéressant de ce point de vue-là, parce que quelque part, même la nature nous rappelle que la sexualité n'est pas faite pour être vécue n'importe comment.
Et alors, on boucle la boucle, puisqu'il nous reste plus que 2 minutes. Ne l'avoue pas en confession, tout ça. C'est très délicat. Je me souviens, on appelait ça le péché d'adolescence. On ne savait pas comment le dire, on ne voulait pas dire le mot, etc. Enfin...
J'ai pas compris votre question.
Non, parce que vous m'avez dit, après ma chronique, que dans les confessions, on ne parlait pas tant que ça de sexualité.
Alors, on n'en parle pas tant que ça. On en parle, à mon avis, pas assez, de fait.
Ah. Les gens croient peut-être que ce n'est pas un péché.
Je pense qu'aujourd'hui, comme autrefois, on ne sait pas très bien par quel bout prend le problème.
Alors, oui, ça, vous avez le mot.
Alors qu'en fait, la première chose à faire pour gérer la sexualité, c'est de nommer les choses.
Oui. Mal nommer les choses, ça apportait du malheur au malheur.
Exactement. Il faut nommer les choses. Et puis, vraiment, il y a un enjeu absolument fondamental chez nos tout-petits, que les parents en parlent avec leurs enfants. Vraiment, et que les parents aient une relation entre eux de bel amour. Et ça, c'est la meilleure éducation à la sexualité.
Sur ces paroles, nous allons, chers auditeurs, nous quitter, hélas, mais provisoirement, je l'espère. Merci à M. l'abbé Jean-Luc Gilbert d'être venu à Radio Courtoisie. Je rappelle notre émission, donc le bal des facétieux, Dieu et le sexe, tout un programme. Chers auditeurs, je vous dis à la prochaine fois.
Vous venez d'entendre le bal des facétieux dirigé par Charles-Henri Deslois, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 14 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.